Bon, ça y est. Est-ce que ça marchait à peu près bien pour vous? L'idée ici, c'est vraiment de faire une synthèse, de voir l'ensemble de ce processus. Là où nous avons fait un choix de nous séparer, nous avons besoin maintenant de notre instant de réflexion pour dire qu'est-ce que c'est mon choix maintenant? Je suis devant une situation difficile, quelconque, n'importe quelle réaction vous avez par rapport à une autre personne ou par rapport à vous-même. Vous êtes devant une réaction négative, quelconque. Vous avez un choix. Soit de rester avec et dans l'inconscient et juste d'aller avec dans le sens de, dans le sens de cette irritation, colère, appréhension, anxiété, frustration, vous avez un choix. Ou de dire, il doit avoir une autre voie. Comme Helen et Bill, qui sont à l'origine d'un cours en miracle, se sont dit ce fameux jour, je ne sais pas quand c'était maintenant, octobre en 1965, il doit avoir une autre voie, une autre façon de faire. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons toujours un choix devant nous. Il y a une très jolie section, la dernière section du texte d'un cours en miracle qui nous demande de rechoisir de nouveau. C'est vraiment la synthèse ou la vraie invitation d'un cours en miracle, c'est de rechoisir. Choisir à nouveau. Qu'est-ce que nous voulons? Là où nous avons mal choisi au début de nous séparer de l'amour, nous avons l'opportunité maintenant de faire un autre choix. De faire le choix opposé et de dire non à notre non à l'amour, de dire non à notre départ de l'amour et dire ce qui est notre façon de dire oui. Est-ce que nous voulons dire maintenant non à notre colère, notre culpabilité, notre sens de mal-être? Est-ce que nous voulons dire non à tout ça maintenant pour ouvrir une porte, la porte vers cette symphonie, vers cette salle de concert où joue cette symphonie? Est-ce que nous voulons ouvrir cette porte maintenant pour entendre cette magnifique musique dont nous faisons partie? Au lieu de rester coupés, séparés dans son petit coin, nous ouvrons cette porte vers une autre réalité, une autre ressenti de la réalité, de notre réalité. Est-ce que nous voulons faire ça maintenant? C'est cette étape-là qui essaie de synthétiser et d'exprimer cette envie, cette invitation. Est-ce que vous avez eu les petits aperçus que vous voulez partager avec nous? Parce que la prochaine étape, je pense qu'on va. Si vous avez des questions ou des choses à dire, il n'y a pas de souci. Parce que sinon, la dernière partie de cette fiche-là, la résistance, notre peur de l'amour, et le lien vers la prochaine étape, les deux se fixent bien ensemble, se travaillent très bien ensemble. Parce que si nous voyons bien le choix devant nous, de commencer à dire non à notre sentiment de honte, de culpabilité ou de colère ou de notre sens de jugement par rapport à une autre personne, si nous avons du mal à la faire, dans le langage du cours, le cours nous apprend, c'est parce que nous avons peur de l'amour. Nous avons peur de l'amour. Il y a aussi un autre aspect, nous allons revenir dessus, mais principalement et premièrement, je veux parler de ça. Donc pour vous lire ici, le dernier paragraphe de cette fiche de travail, la résistance, notre peur de l'amour, il est tout à fait normal d'éprouver des difficultés à relâcher nos jugements. Ceci peut être envers les autres ou envers nous-mêmes. Nous sommes tous extrêmement investis dans notre particularité, individualité. Ce qui est la particularité, c'est notre sens d'être nous-mêmes, en dehors de cette autre réalité que nous partageons. Cette réalité unie et parfaite que nous sommes en réalité. Nous avons très peur de notre vraie réalité spirituelle et unie maintenant, au-delà de notre individualité séparée. Ce chemin nous demande simplement de devenir conscients de notre choix de rester en dehors de l'amour en gardant nos jugements et nos besoins particuliers. Là, je vais développer ça un petit peu parce que dans la pratique d'un cours en miracle, nous devenons conscients de la façon que nous disons non à l'amour tout le temps. ça ne veut pas dire que nous allons facilement pouvoir dire oui maintenant, c'est-à-dire que je veux arrêter de juger. Dans la pratique d'un cours en miracle, la première chose, c'est déjà de devenir conscient de ce, voilà, ici, dans les sperles, la première couche juste en dessous de l'eau que nous avons cachée, nous voulons devenir conscients de ce qui est en dessous du niveau de l'eau, de toutes nos pensées de jugement, de toutes nos pensées d'exclusion. Combien de fois dans la journée nous disons à telle ou telle personne, tu es exclu de l'amour de Dieu, toi tu ne fais pas partie de la grande famille de Dieu, toi tu ne fais pas partie de ce que le Quoi appelle la grande filialité que nous sommes ensemble. Pour nous, pour chacun, il y a quelqu'un qui est exclu de cette famille. Je me suis exclu de cette grande famille. Et maintenant, ça prend l'expression que j'exclus les autres. Pour dire que ce n'est pas moi qui exclus, c'est l'autre en fait. C'est lui qui a commis une erreur. Ce n'est pas moi. Moi, je suis inclus. C'est l'autre. Je l'ai vu, je l'ai trouvé. Et c'est de devenir conscient de toutes ces pensées maintenant qui sont sous le niveau de l'eau de notre iceberg. Pour nous faire remonter ça, devenir conscient de nos réactions par rapport aux autres, faire briller cette lumière de la pleine conscience sur ces pensées-là, pour savoir ce qui est en nous, ce qui n'est pas forcément agréable de savoir tous les jugements, toute la difficulté que nous avons d'inclure les autres dans notre plus haute considération, ce n'est pas facile. Mais c'est vraiment pas facile de savoir à quel point il y a quelque chose en moi qui refuse. Les jeunes hommes qui traversent la rue, qui font en sorte d'empêcher la circulation de passer aux heures de pointe à 8h30, 9h du matin, tout ça. Ou si c'est pas eux, ça sera d'autres personnes dans la journée, ça sera votre patron ou peut-être votre époux ou une autre personne ou le directeur de l'école où vous avez vos enfants qui n'arrêtent pas de faire des bêtises ou un instituteur ou quelqu'un dans le gouvernement, l'administration. Il y a quelqu'un pour vous qui est exclu, qui fait certainement pas partie des enfants de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu, hein, celui-là c'est clair, tout le monde le sait, d'accord. Si vous avez du mal, vous pouvez chercher dans l'histoire, dans l'histoire politique, économique, pour trouver des personnes qui, pour vous, incarnent ceux qui sont exclus, qui ne devraient pas être appréciés de la même manière que les autres.
Il y a le président de la République, déjà, chaque fois, il est exclu par pratiquement la moitié des gens.
Mais si vous regardez les infos, il n'y a que ça, ou vous regardez les revues.
Tout le monde.
Tout le monde est en train d'exclure tout le monde. Voilà. C'est presque le jeu de la société. C'est pas Monopoly, c'est le jeu de l'exclusion. Qui n'est pas bien? Qui mérite notre jugement? C'est ça l'objectif de même. Malheureusement, même nos choix d'amis, souvent, nous sommes attirés vers les gens qui ont les mêmes sortes de convictions que nous, ce qui veut dire souvent la même façon d'exclure certaines personnes. Et donc, c'est de devenir conscient de ce comportement chez nous. Nous n'allons pas pouvoir le changer tout de suite. Des fois, ça reste et ça reste et ça reste et ça reste très longtemps. Ça peut même rester 10 ans, 20 ans. Le même genre de difficulté à inclure quelqu'un dans votre plus haute estime, ça peut rester très longtemps. Donc, Kenneth Wapnick, et je n'arrête pas de répéter que voilà, ces œuvres font vraiment la norme, sont la règle quasiment dans l'étude d'un cours en miracle. Il faut vraiment profiter de ces œuvres parce qu'il décrit tout ce processus, tout ce que j'ai fait, ça vient de son travail. Pour nous aider à comprendre les mécanismes de notre esprit. Là, où Freud, qui est vraiment dans un sens le père de la psychanalyse ou de la psychologie moderne, il a décrit en long et en large le système de pensée de l'ego. Un cours en miracle vient par la suite pour compléter le tableau, pour voir comment ça, ce qui est la psychologie freudienne, s'emboîte dans l'ensemble de notre existence, mais ça c'est notre existence de la personnalité, de notre psyché. Ici c'est la totalité de notre existence. C'est vraiment Freud plus. Ça c'est vraiment la psychologie humaine, pas juste humaine, là c'est la psychologie humaine, mais rattachée à la psychologie spirituelle. Et c'est ça où Kenneth Wapnick, il est vraiment le plus fort. C'est pour nous essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Et c'est ça qui dévoile, qui enlève l'inconscient chez nous. Nous pouvons voir la totalité de notre esprit et de notre choix de continuer à rester en dehors de l'amour. Et donc, il nous dit, nous devenons conscients de toutes les différentes façons que nous disons non à l'amour, nous disons oui à nos besoins, et nous ne nous jugeons pas. Donc, il dit, la façon d'être dans l'esprit juste, c'est de savoir quand on est dans l'esprit faux et de ne pas se juger. C'est primordial, c'est vraiment la règle d'or de ce processus-là, parce que nous allons échouer dans notre objectif de choisir l'amour. Nous allons échouer encore et encore et encore d'aimer les autres et de s'aimer. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'apprécier pourquoi nous échouons. C'est à cause de notre peur de l'amour. C'est autre chose que nous allons aborder tout à l'heure. Il vaut mieux que je le dise. C'est notre peur de l'amour et notre insistance sur notre particularité. Si nous n'acceptons pas notre réalité jointe au sein de l'amour, c'est parce que je ne veux pas de réalité jointe au sein de l'amour. Je veux notre réalité séparée. Je veux rester moi-même, je veux que lui, il reste lui-même. Si je ne vois pas la totalité, c'est parce que je veux voir les parties. Donc, il y a toujours deux raisons pour lesquelles je n'approche pas l'amour. J'ai peur de l'amour maintenant. J'ai peur parce que je crois que l'amour est tellement immense, ça va anéantir ce que j'ai l'impression d'avoir bâti, d'avoir accompli. Le royaume, le domaine de moi-même, et que j'ai toujours une petite idée de vouloir continuer cette expérience d'individualité, de rester moins au dépens d'une vraie prise de conscience de ce que nous sommes dans l'ensemble. Pour revenir à notre exemple de la main et ses cinq doigts, les doigts qui sont les extensions de la main, qui ne sont pas séparés, on ne peut pas séparer les doigts de la main. Pourtant, si nous mettons une feuille de papier juste en dessous du niveau des extrémités des doigts, nous cachons la main, nous avons l'impression que les doigts existent séparément de la main. Nous pouvons même donner des noms, des petits noms aux doigts. Nous pouvons penser qu'ils peuvent se critiquer, se juger, ils peuvent se voir séparément. C'est ridicule, c'est absurde. Quand nous enlevons le papier, nous voyons très bien que nous ne pouvons pas séparer les doigts de la main. Les doigts ne sont fusionnels avec la main, ne sont que des expressions différentes de quelque chose qui est uni. Mais si je ne veux pas voir la main, si je veux rester le doigt, je vais avoir peur de la main, comme si la main va effacer ma perception de moi-même en tant qu'un doigt, ce qui est vrai, je ne vais plus me voir pareil. Mais si je veux rester le petit bout de doigt, je ne vais pas l'approcher. Je ne vais pas approcher l'amour. Et c'est ça qui fait en sorte que j'ai autant de mal à pardonner la personne qui traverse la rue devant moi, à la caissière qui papote avec la personne devant moi, qui ne voit pas que les autres personnes sont pressées et tout le reste. Que j'en veux au pneu crevé et la cafetière et tout ceci, cela. Je ne veux pas ressentir la présence de l'amour qui va effacer mon impression de moi-même, d'être une doigt au dépens devant ma vraie réalité en tant qu'une main. Puis nous nous rendons compte de notre peur de faire le choix de l'amour et nous ne nous jugeons pas. Pour continuer à lire dans ces paragraphes-là, voilà, là nous le voyons, nous ne nous jugeons pas. Nous développons ainsi de la patience et de la tendresse pour nous-mêmes et pour tous les autres par la même occasion. Tellement, tellement important. C'est ça vraiment la pratique du cours, c'est de savoir à quel point la haine, la colère et la peur nous habitent. Nous sommes remplis de tout ceci, de la honte et de la culpabilité, comme tout le monde, d'accord? Et nous ne voulons pas les voir disparaître. Nous sommes très attachés à ça, en fait. Nous sommes extrêmement attachés à notre sentiment de colère, de justice, d'injustice et tout ceci. C'est pour ça que ça ne part pas. C'est nos bébés. Dans le coup, on les appelle nos amis. Oui. Nos amis entre guillemets, bien sûr, entre guillemets. Mais c'est parce qu'on a décidé de se faire mal, tant qu'à faire, on va aller jusqu'au bout. Hein? On se coupe de la symphonie, on se coupe de l'amour, c'est pas pour se faire plaisir. Sauf qu'au début, c'est ce que l'ego nous a dit. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va faire le grand manège, vous allez voir. Hein, accroche-toi, l'individualité et la séparation, c'est vraiment un bon trip, hein, t'inquiète pas. Je vais te montrer comment nous pouvons nous débarrasser de toute cette burque, de toute cette culpabilité par la suite. D'abord, je vais mettre des gens devant toi sur qui tu peux décharger toute cette sentiment de honte et de colère. Il n'y a pas de problème, je vais te donner quelqu'un qui va traverser la route juste devant toi aujourd'hui et tout ceci, cela. Et tu vas avoir une opportunité de décharger ta colère. Tu vas même pas regarder à l'intérieur pour voir tout ceci. Et tu vas même pas te poser la question s'il n'y a pas une autre voie. Et de l'autre côté, je vais remplir ta vie de plein de différentes expériences de plaisir et de divertissement pour que tu ne vois même pas le problème. Sauf qu'à la fin, nous voyons que ça ne marche pas. À un moment, nous avons marre de blâmer les autres ou de blâmer soi-même, et nous avons marre juste de nous divertir et de chercher encore la prochaine chose qui va nous divertir, la prochaine vacance ou ceci, cela, espérons que ça va le faire enfin. Voilà, j'ai envie de vous passer dans le prochain exercice. Ce qui est dans un sens de culmination de tout ceci, parce que ça commence à faire le rapprochement avec le vrai esprit divin derrière la réalité, l'existence. Tu l'as, oui. Oui, je l'ai donné tout à l'heure, je l'ai donné. Donc, sixième étape finale, l'accompagnement. Avec qui est-ce que je fais ce chemin? Et là, vous avez le petit récapitulatif. Ce que je vous demande maintenant, je ne vais pas lire ça avec vous, parce que j'ai envie que vous lisiez ça tout seul et de réfléchir ça tout seul, parce que c'est assez personnel. Et par la suite, nous pouvons le lire ensemble. Mais j'ai envie de vous donner juste cette opportunité de faire un petit travail pour vous-même, de réfléchir à ça. C'est assez profond. C'est vraiment l'instant où nous essayons de vraiment donner une réalité à cette idée d'amour, cette présence d'amour. Ce n'est plus maintenant une idée d'amour, c'est une présence d'amour. C'est une réalité. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste un concept. C'est une chose. Aussi bien que nous pouvons parler d'une chose, d'un être vivant, qui est notre propre réalité, mais qui n'est pas cette réalité ici dont on a l'habitude, c'est l'autre avec une grande A. Donc, je vais vous demander juste de prendre peut-être 10 minutes de lire ça, et puis de revenir ensemble dans votre groupe pour avoir une petite discussion, pour voir vos réactions, vos pensées. Et par la suite, nous revenons ensemble pour en discuter, et puis pour faire la conclusion de notre remontée de l'échelle vers le ciel. D'accord, donc je pense que ça s'explique assez facilement, c'est assez facile à travailler. Donc, vous pouvez rester là, ou vous pouvez aller occuper un petit... Oui, ils le disent, mais je veux dire, vous le lisez où vous voulez, c'est ça. Je vous laisse une demi-heure encore pour travailler ça. Prenez 10 minutes et après, vous remettez dans vos groupes, d'accord? Donc voilà, on est de retour maintenant pour finir notre, faire la dernière petite partie de notre ascension. Et voilà, Anne, la sixième étape, c'est ce que vous venez de faire dans les petits groupes. Qu'est-ce que c'est, Noël, pardon?
On est à la sixième, et après c'est le septième ciel.
Oui, exact, je n'ai pas pensé. Le septième, oui, j'aurais dû mettre une petite septième en bas avec des nuages. Oui, vous êtes arrivé. Sauf que voilà, c'est pour retourner la métaphore, on monte donc en haut, ça sera septième. Avec, oui, j'ai pas pensé. Oh, ça aurait été sympa de faire. Je vous envoie ça par mail. Septième étape, voilà. Il n'y a que des nuages. Oui, c'est ça, oui. Et donc, voilà. Je vous ai fait travailler un petit peu sur cet exercice, sur cette étape accompagnement, sixième étape. Ce que je voulais juste lire.
Oui,
oui.
Oui,
oui, pas Ender, oui, bien sûr. Ouais.
Nous parlons d'accompagnement.
Ok, ça marche. Voilà, ce que j'ai envie juste de lire une certaine partie avec vous maintenant et voir au fur et à mesure si vous avez des réactions, des choses à dire. Encore les récapitulatifs que nous avons déjà fait ensemble au début de cette séance. Mais là, maintenant, nous lisons de la sixième étape, au cours de cette étape finale de notre voyage. Nous nous entraînons à venir vers cet esprit d'amour qui nous accompagne, à le reconnaître et à l'accepter. Nous formons une relation profonde avec lui et nous acceptons sa réalité. L'esprit aimant n'est plus pour nous juste une idée sympathique, une présence bienveillante mais vague et incertaine. Nous reconnaissons ce que nous avons toujours su. L'amour est là. Nous n'avons qu'à aller vers lui. Cet amour contient la réponse que nous avons toujours cherchée. Nous nous sommes accusés du crime de la séparation. Nous nous sommes exclus de l'amour. C'est l'absence de l'amour que nous avons ressenti et la présence de la culpabilité à sa place. Ce sentiment de faute et de péché que nous avons essayé de dissimuler en jugeant les autres. Nous acceptons l'amour à nouveau et toute idée de faute disparaît. L'innocence et la pureté reviennent à notre esprit. Les autres sont innocentés dans notre perception. Toute idée de blessure ou de souffrance s'évanouit complètement. Ça vous a parlé un petit peu? Un petit peu, d'accord. Je trouve c'est important vraiment de savoir que... L'amour ou l'esprit aimant, n'importe la façon que vous arrivez à le concevoir. Merci. N'importe la façon que vous arrivez à le concevoir. c'est très important de savoir que c'est une conception d'un côté, un concept d'un côté, mais de l'autre, c'est une réalité. Il faut passer du concept à la présence, à la réalité, au ressenti. Parce que sinon, nous restons très souvent juste avec l'idée de l'amour. C'est un peu ça. Nous lisons tout le temps amour, amour, amour. Ou Dieu, 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 ou je ne sais pas, esprit, esprit, ou même Jésus, ou Christ, ou n'importe. Je l'entends tout le temps. Oui. Et vraiment l'importance que ça a, c'est vraiment pour chacun. Comme une réalité, comme une vraie présence vivante. Je crois que c'est peut-être ça qui est vraiment les cadeaux de lire ce livre, ou peut-être un autre livre, mais plus particulièrement ce livre ici, parce que c'est tellement évident en le lisant que ce n'est pas Dr. Ellen Shackman qui l'a écrit. C'était sa main qui l'a écrit, mais ce n'était certainement pas son esprit qui l'a écrit. L'auteur s'est identifié comme Jésus. Et pour moi, ce qui était le plus important, c'était vraiment un esprit qui venait d'ailleurs. Mais c'était un ailleurs qui était vrai, qui était véritable. c'est la première fois que j'ai été vraiment frappé. J'avais lu d'autres livres canalisés. De Seth, d'Emmanuel et Bartholomew et d'autres dans cette période où je lisais le cours dans les années 80. Ça, c'est d'autres œuvres qui étaient assez répandues à cette époque-là. Mais ce livre-là et son auteur m'a impressionné le plus, m'a contacté vraiment le plus avec cette idée qu'il y avait une vraie présence, une énorme présence, tellement sage, tellement capable d'aimer, tellement capable de savoir qui nous sommes, nos défauts, est tellement capable de nous aimer malgré tout ceci, de nous inclure dans cet amour et de nous inviter d'aller plus loin vers lui. Donc c'est ce que j'essaie de communiquer dans cette étape ici. Le plus important dans cette étape, c'est toujours de finir ce processus de réflexion sur ce questionnement ici. Que je mets le doigt sur le tableau blanc et sur notre schéma. Tout ces diagrammes, ce schéma ici, c'est pour nous aider à refaire ce choix, à refaire le mauvais choix que nous avons fait au début. La fin de ce choix, l'aboutissement de ce choix, c'est de regagner le ressenti et une expérience de l'amour, d'être aimé, de faire partie de cet amour, de ne pas être exclu. Notre première démarche a été de nous exclure de l'amour. Donc notre but maintenant, c'est de nous réinclure dans l'amour ou de savoir que nous sommes inclus dans cet amour. C'est vraiment le but de cette tradition, et j'imagine, j'espère, de toutes les vraies grandes traditions, c'est à la fin de se ressentir inclus dans cet amour. Nous n'avons qu'à aller vers lui. Ça, c'est aussi une nuance importante. Souvent, dans différentes traditions, on demande à l'amour de venir vers moi. Ici. Donc, en fait, je me contiens et je m'identifie encore chez moi, dans mon corps, et je demande l'amour, dans ces autres traditions, à venir m'accompagner ici, dans ma vie, dans mes difficultés et tout ça. Ce n'est pas vraiment le processus du cours. Il y a une partie de ça dans le livre d'exercice, il y a une petite partie de ça, mais c'est vraiment juste début. Au fur et à mesure, on nous demande dans cet exercice, dans la pratique de cette philosophie, de ne pas juste rester avec l'idée que l'amour peut nous accompagner tous les jours. C'est valable, mais notre idée à la fin, c'est de dépasser notre idée de nous-mêmes. Donc, le fait de demander à l'amour de m'accompagner ne m'aide pas à faire ça. Ça me garde un petit peu dans mon identité, mais ça aide, ça essaie de radoucir mon identité. Mais à la fin, je veux défaire l'importance de cette petite identité pour comprendre la grande importance de ma vraie identité spirituelle. Donc, nous voulons dépasser ce stade de juste demander à l'amour de m'aider dans la vie quotidienne. Il n'y a aucun mal à le faire. Et c'est une très très bonne étape, c'est un très bon exercice de demander la présence de l'amour quand on fait les choses. Mais à la fin, l'idée, c'est que nous allons vers l'amour. Plutôt que demander l'amour de venir vers moi, moi je vais aller vers l'amour. C'est comme ça que nous allons grandir vers une autre réalité, vers notre vraie identité spirituelle, à la fin, pour savoir, il est relativement peu important ce qui se passe dans nos vies et ce qui arrive dans nos vies. C'est ça que nous voulons savoir à la fin, pour que n'importe ce qui se passe, et toutes sortes de choses peuvent arriver à nos corps, ça n'aurait pas la moindre importance pour nous. On est tellement détaché parce qu'on a vu que ce n'est pas notre réalité. On a une vraie réalité. Ce n'était pas cette petite identité ici. C'est autre chose. Majestueuse, magnifique, intemporelle, ce qui veut dire encore plus grand que éternel. Et si éternel vous parle, on a une réalité éternelle. Mais c'est tellement éternel, c'est complètement en dehors du temps. Ça a toujours existé et ça existera toujours. pas du tout comme nos corps, bien sûr. Les corps, ça vient et ça va, ça repart. Donc l'importance d'aller vers cette présence, cet amour contient la réponse que nous avons toujours cherchée. Et voilà, là, nous avons répété ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous nous sommes accusés d'un crime. Nous sommes exclus de l'amour. Voilà. Et nous allons vers l'innocence. Ce n'est pas notre innocence, c'est juste l'innocence de l'être. C'est l'innocence avec un grand I. Ce n'est pas notre innocence personnelle, parce qu'on peut être tenté par la suite de penser qu'il y a ceux qui sont innocents et les autres qui ne le sont pas. Ce qui revient à la dualité et puis à l'opposition, au jugement, particularité, tout ceci, cela. S'il y a un qui est innocent, nous sommes tous innocents. Innocents, bien sûr, pas dans nos corps, mais dans un autre domaine, dans une autre perspective. Du point de vue de l'ego, tout le monde est coupable et toujours coupable. Du point de vue de l'esprit, du Saint-Esprit en nous, de notre esprit juste, qui est uni avec la réalité, nous sommes tous innocents et parfaitement innocents. Ça, c'est à réfléchir quand vous êtes au café et vous êtes en train de regarder tout le monde défiler devant vous. Essayez de chercher ce qui peut être l'innocence derrière chacun. Et vous allez voir la difficulté. Mais l'innocence de Dieu. Ouais. Pas juste innocent parce que oui, il a été un bébé une fois et puis tout ce qui est arrivé par la suite, c'est ça qui lui a rendu un voyou. Et voilà, oui, il a fait ceci, il a fait des erreurs et tout ça. Mais bon, quelque part, il doit avoir un peu de brin d'innocence. C'est un départ. Mais cherchez. Et voir la résistance, voir la difficulté à vraiment ressentir qu'est-ce qui peut être complètement innocent chez lui ou chez elle, la personne qui défile devant vous. L'invitation, en lisant encore sur l'affiche, cette étape nous invite à aller vers cet esprit aimant avec lequel chacun garde un lien indestructible. Vous avez peut-être apprécié la première partie là. Nous essayons en fait de faire le lien avec notre propre grand soi. Notre grand soi qui est cet esprit pur. C'est tout ce que nous essayons de faire. C'est de nous réidentifier, de retrouver l'identité de ce grand soi qui est dans un état d'innocence parfaite. Mais si ce grand soi qui est mon vrai moi est innocent, ça veut dire que le grand soi de chacun est pareil. Donc quand j'ai fait l'effort d'essayer de chercher l'innocence chez l'autre dans son grand soi, ça m'aide à le faire pour moi-même. Je suis en train de renforcer que nous l'avons tous. L'instant que j'essaie de le faire tout seul dans mon coin, je suis innocent, c'est une impossibilité de trouver une innocence personnelle. Sinon, c'est juste encore la particularité, c'est mon individualité que j'essaie d'honorer, d'agrandir. La seule vraie innocence que nous allons trouver, c'est l'innocence au fond de l'existence que nous partageons tous. Les caractéristiques de cet esprit, question numéro 2. Voilà. Et question numéro 3, nous réfléchissons à notre mérite de son amour, nous en sommes dignes. Nous le valons n'importe ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de purifier nos pensées avant de l'approcher. Ceci est son rôle et son travail. Nous avons besoin uniquement de le vouloir. Vous avez travaillé ça un petit peu? Vous avez compris ce que ça veut dire? Il y a une nuance. Il y a une petite nuance là. Vous n'êtes pas bavarde aujourd'hui. C'est encore une idée clé du cours que je trouve magnifique, c'est que nous ne pouvons pas nous innocenter, nous ne pouvons pas nous trouver innocents avant d'aller vers cet esprit. Souvent, nous considérons que nous ne pouvons pas approcher l'amour parce que nous ne sommes pas assez purs. Nous nous voyons impurs. Nous savons à quel point nous avons encore de la culpabilité ou de la haine ou de l'agacement ou de l'irritation ou le jugement ou les critiques en nous. Je ne peux pas aimer, je ne peux pas être aimable, je ne peux pas aller au sein de l'amour, je ne peux pas aller vers lui parce que ce n'est pas possible d'emmener ça, d'aller avec ça. Ça, c'est une façon de rester avec notre petit être. C'est une façon de se mettre des barrières, de s'empêcher de faire ce choix. Ça, c'est donner une plus grande importance à notre petit être, notre ego. En fait, dans un sens, c'est l'arrogance. Ouais. C'est d'essayer de dire, je dois me déculpabiliser et trouver ma propre innocence d'abord, avant d'aller vers la source de l'innocence. C'est presque dire, je suis ce qui est jugé et je suis le juge en même temps. Le juge en moi n'a pas encore jugé que je suis assez innocent. Donc c'est mon arrogance qui dit que je suis... c'est moi qui me mets juge à la place de Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu par rapport à ma qualité. Je me suis prononcé Dieu et j'ai dit tu n'es pas méritant. Donc c'est l'arrogance en moi qui dit je ne peux pas approcher Dieu. La source de l'amour. Donc c'est là où nous devons comprendre que non, la préparation pour aller vers l'amour, c'est simplement de vouloir que nos pensées égoïstes et nos pensées de séparation soient effacées. La préparation pour aller vers l'amour, c'est de vouloir et de permettre à ce que nos pensées de séparation, de haine, de peur, d'agacement, de profonds sentiments de défaut nous soient enlevés. C'est une nuance qui est vraiment magnifique aussi. On ne nous demande pas d'être pur avant d'aller vers la source de la pureté. Comme on dit dans le cours, ça c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle de Jésus de nous rappeler de notre pureté. Et dans un sens, c'est très très logique, parce que il y a notre esprit faux qui essaie par tous les moyens de se donner toutes les caractéristiques du juge, de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, de tout le monde. Il essaie de dire, je te juge et il faut que tu m'écoutes pour savoir par rapport à ta qualité. Or, la vraie seule étape qu'il nous faut faire, c'est d'aller vers l'esprit juste. Le problème, c'est que quand on va vers l'esprit juste, nous savons, nous allons entre guillemets, l'ego pense qu'il va perdre quelque chose. Notre individualité va perdre son sens d'individualité. On ne peut pas aller vers l'amour en se sentant très particulier. On doit abandonner cette envie de rester dans un sens soi-même avec toute cette carapace d'individualité, de jugement, d'opinion et tout ça. Parce que dans la lumière de l'amour, ça sera effacer, entre guillemets, c'est pas effacer dans le sens d'anéantir, c'est effacer simplement dans le sens, dans la présence de l'amour, on ne ressent plus de souffrance. Donc il n'y a plus d'envie de juger, il n'y a rien qui est là. C'est juste absent, voilà. L'être qui est défini par les jugements est absent dans l'expérience de l'amour, simplement parce que l'expérience de l'amour ne permet pas la souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de jugement. Donc notre identité qui est attachée à la souffrance et nos jugements ne va pas faire le pas d'aller vers l'amour. Sachant qu'il ne peut pas exister dans une expérience où il n'y a pas de souffrance. C'est un petit peu, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. C'est tellement logique dans un sens. Et par notre intellect, nous pouvons apprécier la logique, mais il faut utiliser ces concepts logiques pour faire ce pas vers l'amour tant qu'on peut. D'accord. Là, la quatrième étape, la quatrième petite pointe là, je vous encourage à utiliser les œuvres écrites, musicales ou d'une forme d'art, n'importe, pour vous donner un peu de répit dans vos jours, dans votre vie, pour essayer de trouver une façon de symboliser, de rester en contact avec cet esprit pur que nous cherchons tous. Le choix constant, je vais lire encore du fiche. Cette étape peut être difficile à expérimenter. Elle nous demande de sortir de tous nos concepts de nous-mêmes, de relâcher toute idée de mérite pour venir l'esprit ouvert et vide vers une autre réalité. C'est un processus. Nous formons une relation avec l'esprit aimant sur une longue période. nous revenons tous les jours à cet instant de choix. Est-ce que je veux justifier mes raisons pour ma douleur ou est-ce que je veux approcher cet esprit aimant et être enfin heureux? Et l'amour restera toujours avec nous le temps qu'il faut pour choisir correctement. Donc encore, c'est cette idée-là de constater quand nous avons du mal à aller vers l'amour et de se ressentir un accompagnement dans notre difficulté qui ne nous juge pas pour notre difficulté. Qui sait que ça prend du temps. Ça prend du temps pour aller au-delà de notre peur. Pour savoir que nous serons aimés. Nous allons vers l'amour. L'ego nous a dit, tu vas vers l'amour avec toutes tes impuretés, avec tout le bagage que tu as, tu seras anéanti. Et il nous faut du courage et ça prend du temps pour savoir, non, on ne sera pas anéanti, on sera aimé. Malgré notre bagage de négativité, de critique, de jugement et tout ce qui est en nous. Malgré la haine qui est véritablement en nous, malgré tous nos efforts de le déguiser, de le dissimuler, de le repousser sur les autres, nous ne serons pas anéantis du tout, nous serons uniquement aimés. C'est un processus, ça prend du temps. Et c'est l'idée ici, ce que j'ai soutenu, c'est nous essayons de voir nos concepts de nous-mêmes et de les mettre d'à côté. Le temps d'aller vers l'amour, juste de temps en temps. Est-ce que vous aviez des choses à dire par rapport à cette étape-là?
Moi, ce que j'aurais voulu, c'était en disant ça, et je me suis dit, là, tout de suite, je ne peux pas dire, je suis une crise de
l'anxiété. C'est... Oui, c'est
j'arrive aujourd'hui et puis j'ai pas fait le travail. Voilà,
c'est
pas trop.
Ah, c'est
on a fait le travail, mais c'est pareil.
Vous avez fait le travail, mais c'est pareil.
Je me doute qu'il faut beaucoup de temps avant.
Annie, je peux te rassurer que on est très nombreux d'avoir fait ça des années et des années et des années. Mais chaque année porte ses fruits. Chaque fois, ça porte ses fruits. Vraiment, ça porte ses fruits. Et c'est juste une reconfort énorme de savoir que nous sommes aimés malgré nos difficultés. C'est malgré nos difficultés et le temps que ça nous prend. Et Kenneth, notre prof, il nous encourage d'avoir vraiment une conversation avec la source d'amour pour dire « j'ai peur de toi ». J'ai peur de toi. Et il nous demande vraiment d'avoir une conversation parce que le symbole que le cours utilise, c'est Jésus, d'avoir une relation franche avec lui. Il peut tout prendre. Et c'est pas le Jésus de la Bible non plus. Ce Jésus-là, il est plutôt cool. Il porte des rébans, il porte une casquette, et il est vraiment comme nous. Il faut avoir un contact très intime avec cette présence d'amour qui ne peut faire que nous aimer et savoir ce qui est en nous. Et savoir la peur que nous avons d'aller vers cette magnifique esprit qu'il représente. Qui est incapable d'aimer et qui aime tous et chacun pareil, avec le même amour. C'est juste notre peur qui nous empêche, c'est tout. Mais il ne faut pas qu'on en fasse une grande histoire de notre peur non plus. La peur, c'est juste la peur. Ce n'est pas une réalité, c'est juste... Et nous faisons de plus en plus, tranquillement, doucement, nous rigolons beaucoup. Kenneth, notre prof, qui fait ça depuis qu'il a été introduit à ce livre en 1972-73, il n'arrête pas de nous faire rigoler, vraiment. Il est un très très grand intellect, mais en même temps, il est très informel et très intime avec chacun. Il blague tout le temps. Ces conférences sont toujours interrompues par les fous rires. C'est tout dans la légèreté, mais le travail et le sérieux, l'importance de relativiser, de ne rien prendre au sérieux. Certainement pas sa peur. De ne rien prendre au sérieux. Tout est déjà là. Nous sommes déjà arrivés. Nous sommes déjà à la maison. Au sein de ce magnifique foyer. Nous n'avons pas pu quitter. La symphonie est là. Partout. YMCA. Symphonie. Oui, et c'est toujours là. Nous n'avons pas pu échapper. Nous avons eu juste une impression dans un rêve de pouvoir avoir fait mal à notre grand-parent, notre grand-papa céleste, d'avoir échappé de la maison et maintenant il nous pourchasse, tout ceci, tralala. Rien s'est passé, absolument rien de tout ceci est réel. Nous sommes tous très, très, très confortablement assis dans nos grands fauteuils au ciel. C'est là où on a commencé, je crois, non ? Il y a quelques temps maintenant. Ça semble, c'est loin. C'était quoi, au mois de décembre, peut-être ? Quand on a quitté nos fauteuils. Vous y êtes toujours, d'ailleurs. Oui. J'ai dit à ce moment-là que nous sommes endormis. Nous sommes endormis dans nos fauteuils au ciel. Des fois, les gens se sont endormis dans les fauteuils ici. N'est-ce pas? C'est arrivé. Et nous y sommes déjà. C'est ça le plus remarquable. Il n'y a pas vraiment de voyage à faire. Qu'elle nous renforce tout le temps. Il y a juste les yeux à ouvrir. Mais il n'y a pas de voyage. En fait, Dieu juste ouvre les yeux pour voir là où nous sommes déjà. L'endroit que nous n'avons jamais quitté. Nous n'allons pas mourir. Nous ne mourrons pas. Nous changeons peut-être de forme, mais nous ne mourrons pas. C'est une impossibilité. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur qu'il y a quelque chose en nous qui change. Il n'y a absolument rien qui change. Les corps, ça vient et ça repart. Ça n'a rien à voir avec nous. Absolument rien à voir avec nous. Il y avait d'autres...
Juste une petite question. Oui. Moi, je voulais savoir si tu fais référence quand même dans le cours au miracle à la gratitude.
Ah oui, beaucoup.
Je suis étonnée que là, tu n'en aies pas parlé.
Il y a gratitude. Il y a gratitude et il y a beaucoup de choses encore que je n'ai vraiment pas eu le temps de faire. Oui, gratitude.
C'est important d'en parler dans cette étape.
Gratitude est une idée très importante, c'est une étape. Il y a plusieurs exercices, je crois, sur la gratitude. À savoir que la gratitude du cours n'est pas tout à fait comme est utilisée souvent. C'est quasiment une gratitude envers soi-même, de la volonté, d'avoir eu la volonté de retourner vers l'amour. Gratitude envers Dieu, oui, mais Dieu n'a pas d'ego pour l'apprécier, hein, il faut le savoir. C'est une gratitude quasiment envers soi-même de se souvenir que Dieu est l'amour et n'est pas peur.
Ou envers la présence divine, c'est une certaine reconnaissance, la gratitude. La gratitude, c'est qu'on sait qu'elle est là.
La gratitude est un ressenti automatique. Quand on sait à quel point on est aimé et on n'a pu rien faire pour empêcher cet amour. Mais à cet instant de reconnaissance, on sait que l'amour n'est pas capable de vraiment reconnaître notre gratitude. Pas d'une façon égoïste du tout. Il n'y a rien de l'autre côté. Parce que l'amour n'a jamais cessé d'aimer. Parce que l'amour sait à quel point nous avons détesté l'amour. Détesté cette présence. Nous avons dit non. Notre point de départ, c'était de dire non, je ne te veux plus. Mais ça n'a rien changé. Donc maintenant que nous sommes reconnaissants, ça ne change rien non plus. L'amour brille. C'est... Mais sinon, il y a des très belles exercices, très belles opportunités de ressentir la gratitude. Love is the way I walk in gratitude. L'amour, love is the way I walk in gratitude. En anglais, je ne sais pas en français, c'est peut-être l'amour, c'est la façon ou la voie par laquelle je marche dans la gratitude. Ouais. Il y a des exercices comme ça. Juste pour finir à la fin, quand il n'y a plus d'autres questions, il y a juste justement une méditation que j'avais envie de vous lire pour faire la clôture. Mais s'il y a d'autres questions ou d'autres choses à dire, ça sera avec plaisir. Ça a été ces étapes-là pour vous. Ouais. Et il va falloir qu'on discute, mais par la suite, hein, après de la prochaine étape, de ce que nous pouvons faire et ce que vous pouvez faire aussi de votre côté, si vous avez envie de continuer. Vous êtes devenu un petit groupe de fidèles, qui avait envie d'aller jusqu'au bout, de savoir de quoi il s'agit tout ça. Et peut-être maintenant vous n'avez pas envie juste de relâcher, vous avez envie de continuer. Donc il va falloir que nous discutions éventuellement comment vous pouvez continuer et comment nous pouvons faire quelque chose ensemble. On verra pour tout ça. Hein? Donc, maintenant je vais vous lire juste pour la clôture de cette série d'ateliers que nous avons fait, un très beau parcours. Je vais vous lire de la méditation de cette leçon 157. En sa présence, je voudrais entrer maintenant, qui pour moi fait un petit peu le tour de pas mal des choses dont on a discuté, et surtout nous laisse vraiment avec l'idée que tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter la présence autour de nous. Et cette jolie méditation, c'est sur cet acte d'aller vers cette présence, justement. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesses dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment. Pas tu peux l'empêcher. Attends, ça va pas le faire. Attends, c'est très détendu. Il est entré dans sa présence tout de suite, en fait. Mon cher, un exemple, oui. Les chiens, voilà, on sait que les chiens, ils y sont déjà. Bon. Ça va continuer encore longtemps, mon cher? Oui, il est très content. Non. Allez, couche-toi là-bas, come here. Couche-toi. Je suis cruel, c'est ça? Allez, you stay there. Je suis cruel.
Je ne reconnais pas l'amour.
Eh bien, très bien. Bon. Oh, t'inquiète pas, je le savais. Patricia, c'est pas bon. Oh, regarde ce visage d'ange. Bon, on recommence?
Oui.
Bon, du début. Oh. Non, mais c'est... Il veut pas que je le fasse. Bon, saisissons-nous. Un petit peu sérieux. Bon, s'il vous plaît. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. Voilà, bonjour. Vous m'aidez là. Hein? Non, mais je vais te le faire lire. Hein? Ça sera toi. Attention. Bon, un petit effort, s'il vous plaît. Je sais que vous avez envie de partir. Bon. C'est un temps particulier de promesses dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie de la vie. Ceci est un autre tournant crucial dans le curriculum. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qui nous reste à apprendre. Elle nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête et nous saisissons une petite lueur de ce qui se trouve passé les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre. Elle nous laisse là un instant. Et nous allons au-delà, sûrs de notre direction et de notre seul but. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche de ciel, quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage. Or, tu es rendu assez loin en chemin pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus de ses lois et aller un instant dans l'éternité. Tu apprendras à faire cela de plus en plus, comme chaque leçon, fidèlement répétée, t'amènera plus rapidement en ce lieu saint et te laissera pour un moment à ton soi. Il dirigera tes exercices aujourd'hui, car ce que tu demandes maintenant est ce qu'il veut. Et ayant joint ta volonté à la sienne aujourd'hui, ce que tu demandes doit être donné. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui pour éclairer ton esprit et le laisser reposer dans une calme anticipation et une joie tranquille dans lesquelles tu laisses rapidement le monde derrière toi. À partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère et un éclat qui voyage de tes doigts à ceux que tu touches et qui bénit ceux que tu regardes. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres et chacun de ceux à qui tu penses ou qui pensent à toi. Car ton expérience aujourd'hui transformera ton esprit au point qu'il deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu. En la présence du Christ, nous entrerons maintenant, sereinement inconscients de tout, sauf de sa face rayonnante et de son parfait amour. La vision de sa face te restera, mais il y aura un instant qui transcende toute vision, même celle-là la plus sainte. Cela jamais tu ne l'enseigneras, car tu ne l'as pas atteint par l'apprentissage. Or, la vision parle de ton souvenir de ce que tu connaissais en cet instant et connaîtras sûrement à nouveau. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Merci beaucoup à tout le monde pour cette merveilleuse expérience de partage.